Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Prague. Voici les informations. Le président de la République, Václav Klaus, a invité le premier ministre Stanislav Gross et le chef du KDU-CSL, Parti chrétien-démocrate Miroslav Kalousek, à chercher un arrangement qui ferait sortir le gouvernement de l'impasse dans laquelle il se trouve. Les deux politiciens devraient chercher une issue à la crise de la coalition gouvernementale qui pourrait convaincre les citoyens de ce que la continuation de ce cabinet sera possible. Le président Václav Klaus l'a déclaré après ses entretiens avec Gross et Kalousek. Le KDU-CSL insiste sur le départ de Stanislav Gross de la tête du cabinet alors que ce dernier est prêt à remplacer les trois ministres du KDU tant que ce parti ne changera pas d'avis d'ici à mercredi prochain, date d'une nouvelle rencontre des deux politiciens. Le président Václav Klaus participera mardi à Bruxelles aux négociations des chefs d'État et de gouvernement des 25 avec le président américain George Bush. La République tchèque et la République d'Haïti s'apprêtent à normaliser ses rapports et établir des contacts diplomatiques. La question sera mercredi au programme du cabinet. La diplomatie tchèque envisage inaugurer son consulat honoraire à Haïti. Six dignitaires catholiques tchèques, dont l'archevêque pragois Miloslav Vlk, participent en Italie à la rencontre des amis du mouvement Focolare. Le programme de la rencontre puise dans des méditations et dans des témoignages personnels des participants. Les lignes aériennes tchèques, la CSA et la compagnie belge SN Bruxelles Airlines augmenteront à partir du mois de mars le nombre de vols entre Prague et Bruxelles à 6 par jour. Les compagnies répondent ainsi à l'intérêt croissant pour cette liaison après l'entrée de la Tchéquie dans l'Union européenne. La météo, des chutes de neige et des températures variant autour de zéro sont prévues pour mardi. C'était les informations par Yerka Gisublova. Merci de les avoir suivies.
Faits et événements en République tchèque. Alena Debertova.
La crise de la coalition gouvernementale et ses dernières évolutions vers l'apaisement puis l'aggravation de la situation sera naturellement le premier thème de notre programme d'actualité. Moi qui ai servi le roi d'Angleterre, l'un des romans les plus connus de Bohumil Hrabal, va connaître une version cinématographique. C'est Yiji Menzel, l'Oscar du meilleur film étranger pour Les trains étroitement surveillés, qui la réalisera. Nous vous en dirons plus dans la suite de notre programme, avant de vous informer sur l'avenir du centre de Prague, qui risque de perdre une importante partie de ses habitants traditionnels. Depuis samedi dernier, le premier ministre social-démocrate Stanislav Gross doit faire face à la fronde du deuxième parti de sa coalition, le Parti chrétien-démocrate, qui réclame sa démission. Les crises liées aux finances privées du chef du gouvernement ainsi qu'à celles de son épouse s'annoncent plus graves que prévu. Récapitulatif des derniers développements avec Alexis Rosenzweig.
Miroslav Kalousek a réussi à surprendre tout le monde. Alors que le microcosme politique pragois s'attendait à un apaisement dans la crise que traverse le gouvernement depuis quelques semaines, le chef du KDU-CSL, le Parti chrétien-démocrate, a réclamé samedi la tête de Stanislav Gross après un entretien apparemment musclé entre les deux hommes.
Nous
respectons le droit de la social-démocratie à nommer un nouveau premier ministre, a déclaré Kalousek après la rencontre. Cela signifie que si les sociaux-démocrates décident de remplacer le chef du gouvernement par une personne plus digne de confiance, nous continuerons de travailler comme un partenaire loyal au sein de la coalition, exactement comme nous l'avons fait lorsque Stanislav Gross a pris la place de Vladimir Spidla. Nous ne posons pas d'ultimatum, il y a un problème et il doit être réglé le plus rapidement possible. Ce n'est pas nous qui en portons la responsabilité, mais Stanislav Gross. Miroslav Kalousek avait pourtant obtenu des garanties du Premier ministre, qui s'était engagé à faire la lumière sur les différentes créances qui lui ont permis d'acheter son appartement luxueux, désormais célèbre, et à confier les affaires de son épouse à un cabinet d'avocats. Cela n'a apparemment pas suffi, et la révélation des liens entre Charka Grossova et la propriétaire d'une maison close a l'air d'avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Stanislav Gross, qui bénéficie toujours du soutien de son parti, n'envisage pas de démission pour l'heure, une démission qui, au terme de la constitution tchèque, entraînerait automatiquement la chute du cabinet. Stanislav Gross. Il n'est pas possible qu'un parti reste membre de la coalition si ce parti considère que le chef de cette coalition manque à ce point de crédibilité qu'il doit démissionner. Si j'ai le soutien du Parti social-démocrate, je suis prêt à envisager le départ des ministres chrétiens-démocrates du gouvernement. Le dénouement de cette crise pourrait avoir lieu mercredi prochain, date à laquelle Stanislav Gross et Miroslav Kalousek devraient à nouveau se réunir. Les hypothèses sur la suite des événements sont diverses. Soit les ministres chrétiens-démocrates quittent le cabinet et Stanislav Gross ne dirige plus qu'un gouvernement minoritaire avec les libéraux du parti unioniste et le soutien des communistes au Parlement. Soit le Premier ministre décide de démissionner et se fait remplacer par un membre de la social-démocratie. Mais les tensions entre chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates pourraient aussi s'apaiser et la tâche de la coalition actuelle pourrait être menée par Stanislav Gross jusqu'à son terme en juin 2006. L'hypothèse la plus extrême, mais qui reste envisageable, est celle d'élections législatives anticipées. La dernière fois qu'une coalition tripartite s'est effondrée, c'était en 1997, et Václav Klaus, alors Premier ministre, avait été contraint de démissionner suite au scandale lié au financement frauduleux de son parti. Un gouvernement de transition, chargé d'organiser des élections législatives, avait été nommé par le président Havel. Klaus, aujourd'hui président de la République, doit rencontrer un à un les principaux acteurs de la crise actuelle. Après ses entretiens avec Gross et Kalousek dimanche et lundi, il a seulement fait comprendre qu'il souhaitait que les deux trouvent un arrangement qui ferait sortir le gouvernement de l'impasse dans laquelle il se trouve.
Depuis des années, on parle de la mise à l'écran du célèbre roman de Bohumil Hrabal, « Moi qui ai servi le roi d'Angleterre ». Après des années de tergiversations et plusieurs projets avortés, il semble aujourd'hui que ce sera le réalisateur Jiří Menzel qui portera à l'écran ce chef-d'œuvre.
La bataille pour les droits de réalisation du film avait déjà commencé du vivant de l'écrivain, et il faut dire que Bohumil Hrabal n'a nullement contribué à son heureux dénouement. Au contraire, il n'a fait que brouiller les choses en cédant les droits d'adaptation deux fois et à des personnes différentes. Parmi les candidats à la réalisation du film, il y avait plusieurs réalisateurs renommés, dont Karel Kachinia, Jan Svierak, Jan Hřebejk et Jiří Menzel. La candidature de ce dernier semblait tout à fait logique, car c'est un véritable spécialiste d'adaptation des œuvres de Hrabal. Plusieurs films de Jiří Menzel sont basés sur ses romans, et avec les trains étroitement surveillés, le réalisateur a même décroché un Oscar. Ce lundi, les producteurs du film, les sociétés AKS, Bioscope et la télévision Nova, ont donc présenté à la presse leur projet. Ils ont acquis les droits et décidé de confier la réalisation à Jiří Menzel. Les aventures d'un apprenti serveur dont la vie est comme un miroir déformant qui reflète l'histoire de l'Europe centrale du XXe siècle peuvent donc être enfin portées à l'écran. À cette occasion, j'ai demandé au réalisateur quelles sont, à son avis, les qualités principales du roman de Bohumil Hrabal.
Je crois que Hrabal est un grand humaniste et qu'il a le point de vue de regarder les gens comme les bêtes souriantes. C'est tout.
Est-ce qu'il y a les thèmes dans ce roman que vous aimeriez souligner dans votre adaptation ?
Je suis en train de travailler. Je ne veux pas proclamer avant ce que je suis en train de chercher maintenant.
Est-ce que vous envisagez une grande coproduction internationale ?
Je ne crois pas. Je crois que ça doit être un film tchèque avec participation financière, mais je n'aime pas les grandes coproductions avec les vedettes, etc. Je n'aime pas les grands films.
Les droits de réalisation de ce film ont fait l'objet dans le passé d'un grand combat entre des réalisateurs, entre des producteurs, etc. Est-ce que le fait que vous avez été choisi finalement pour le réaliser, est-ce que c'est une satisfaction pour vous ?
Non, je ne crois pas. C'est une challenge. J'ai l'occasion de faire un film, c'est tout.
Quand est-ce que vous comptez commencer le travail sur ce film ?
Je suis en train de préparer le scénario et pendant cette année, il faut préparer le film et à la fin de cette année, on va commencer le tournage.
Est-ce que vous aimeriez inviter à la collaboration aussi des acteurs, des comédiens étrangers, par exemple des comédiens français?
Pour le moment, aucune raison. Je crois qu'il faut faire film en tchèque avec les acteurs tchèques. Pour le moment, il y a des rôles pour lesquels il faut utiliser les Allemands, les acteurs allemands.
Au début des années 90, le centre de Prague, représenté principalement par le premier arrondissement, avait tendance à se dépeupler. La mairie a pris des mesures pour que cela ne continue plus. Alain Slivinski.
L'adjoint au maire du premier arrondissement pour la politique du logement, Peter Burger, est clair. Nous devons tout faire pour que le centre de Prague ne devienne pas une ville morte. Mon objectif est qu'il y ait de moins en moins de néons éclairant les bureaux et de plus en plus de lampes éclairant les tables de cuisine. Il faut savoir que le premier arrondissement de Prague, regroupant la majorité des quartiers historiques de la capitale, perd 500 habitants chaque année. D'après le dernier recensement, Prague 1 compte dans les 34 000 habitants. La transformation de beaucoup d'immeubles en hôtels s'est arrêtée, mais la mairie ne voit pas d'un bon œil que les appartements soient occupés seulement pour des séjours temporaires ou achetés par des patrons qui n'y ont pas leur domicile fixe. Pour cela, la mairie du premier arrondissement a commencé à vendre la plus grande partie des logements qu'elle possède à leurs locataires. Dans le premier arrondissement, il y a dans les 15 000 logements. La mairie en possédait 5 000 et en a déjà vendu 2 000. À l'avenir, elle compte conserver 1 000 logements seulement. Selon le président de l'association des agences immobilières tchèques, Jaroslav Novotny, le tiers de ces logements vendus aux locataires actuels sera certainement revendu avec un bénéfice appréciable. En effet, le niveau des prix est éloquent. Alors que le locataire peut acheter son appartement à la mairie entre 260 et 330 euros le mètre carré, le prix de vente peut aller de 1 000 euros pour un logement avant sa reconstruction à plus de 3 000 euros le mètre carré après rénovation. Un grand nombre de locataires qui achèteront un logement à la mairie choisira de le vendre et d'acheter ensuite une maison. D'autre part, bon nombre de cadres qui ont décidé de quitter le centre de Prague pour habiter dans des maisons à la périphérie ou en banlieue voudraient bien habiter à une bonne adresse. Ce sont des acheteurs potentiels des appartements du centre de Prague. Les riches étrangers représentent une deuxième catégorie d'acheteurs, mais aussi les personnalités du sport ou du show business. Ainsi donc, la mairie du premier arrondissement pragois, grâce à la vente de la plus grande partie des logements qu'elle possède, espère ralentir le dépeuplement du centre historique. Elle est persuadée que le nombre d'habitants de l'arrondissement se stabilisera autour des 32 000. Le premier arrondissement devrait donc vivre et non pas se transformer en quartier de bureaux et hôtels seulement.
C'était les faits événements en République tchèque. Place maintenant au sport et puis à la musique.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Salut à tous les amateurs de sport. 961 minutes d'invincibilité et 21 matchs sans encaisser de but en 27 journées de Première Ligue. Série en cours. Pour sa première saison, sous le maillot des Blues de Chelsea, Petr Cech bat tous les records dans un championnat anglais pourtant réputé pour être l'un des plus offensifs en Europe. Récemment, le gardien de but de l'équipe nationale tchèque a également été élu par la Fédération internationale d'histoire et des statistiques du football, deuxième meilleur gardien à son poste pour l'année 2004, seulement devancé par le portier de la Juventus de Turin et de la Squadra Azzurra, Gianluigi Buffon. À 22 ans seulement, la progression de Petr Cech semble donc ne pas encore devoir connaître de limites. Avant le premier match de l'année 2005 de la République tchèque contre la Slovénie, Radio Prague a rencontré celui qui a laissé un excellent souvenir en Bretagne aux supporters du Stade Rennais. En français, Petr Cech est tout d'abord revenu sur une saison 2004 qu'il aura révélée au grand public.
Je pense que je peux considérer la dernière année, c'était la meilleure année de ma carrière, parce que je pense que j'ai bien commencé cette année ou l'année dernière avec Rennes. Je pense que j'ai fait de bonnes performances. Après, on a fait un Euro 2004 très succès. Et pour moi, bien sûr, j'étais dans l'All-Star de tournoi. Après cet euro-là, ça me faisait énormément plaisir. Et après, je suis parti en Angleterre. C'était très, très difficile d'avoir gagné le poste de numéro 1, gardien numéro 1 au Chelsea. Je suis très, très, très content que j'ai réussi. Et le plus grand plaisir pour moi, c'est qu'on a fini l'année premier. On était dans la tête de classement. Chelsea, pour le Brest, c'est un monstre, un des plus grands du monde, parce que tout le monde est intéressé par Chelsea. Tout le monde veut savoir tout vers Chelsea. Et c'est pour ça que la pression, avec des agents qui sont venus de M. Abramovich, il y a tout le monde qui a pensé qu'on peut tout gagner, qu'on doit tout gagner. Et voilà, c'est toujours difficile de gérer la pression comme ça.
Le championnat d'Europe, avec le recul, ne reste-t-il pas un grand regret pour l'équipe tchèque en général?
Oui, je pense que ça sera un regret pour toujours, parce que je pense qu'on s'est senti vraiment fort pendant l'Euro. Et dans le football, on ne sait jamais, dans ce point-là, le but contre la Grèce, c'est arrivé dans le pire moment possible. Et pour nous, vraiment, on était déçus parce qu'on a senti qu'on pouvait, on aurait pu aller jusqu'au final.
Durant ce match contre la Grèce, vous a-t-il seulement manqué de la réussite pour l'emporter?
Oui, je pense qu'on a manqué de réussite, on a manqué un peu de la chance, parce qu'on s'est créé des occasions, mais malheureusement pour nous, on a tapé la barre au début de match. Et après, on s'est créé des bonnes occasions, mais on a chaque fois, on n'a pas cadré. Et malheureusement, la meilleure occasion cadrée, c'était Milan Baroš qui a arrêté avec le dos sous la ligne. Voilà, je pense dans ce point-là, on savait que la chance n'est pas avec nous. Et finalement, ça tournait contre nous à la dernière minute.
Maintenant, avec l'équipe nationale, commence également une autre année. Bon, là, la qualification avait mal débuté avec la défaite contre les Pays-Bas. Vous vous êtes ensuite bien repris en battant notamment à la maison la Roumanie. Quels seront cette année les matchs vraiment importants pour se qualifier?
On espère de bien commencer une nouvelle année. Je pense qu'on va, ou les entraîneurs vont essayer quelques nouveaux joueurs. Ça, c'est aussi très, très bon pour nous parce que on peut utiliser une équipe différente et les nouveaux joueurs vont s'adapter au jeu de l'équipe nationale et c'est toujours important parce que ça peut arriver que des joueurs seront blessés. Avant l'Euro, on a fait la même chose et finalement, les bancs de touche forts nous a beaucoup aidés.
Avec vos performances et votre régularité, pensez-vous pouvoir être un des nouveaux leaders de l'équipe tchèque?
Oui, j'espère que je vais être utile pour mon équipe. J'ai toujours voulu faire de meilleur possible pour eux, pour mes coéquipiers. Là, bien sûr, avec la saison en Chelsea, peut-être mon rôle a changé un peu. Mais parce que quand même, le rôle de gardien de but est toujours important. Et je pense qu'avec la situation avec Chelsea, le rôle a plus changé.
Vous avez 22 ans, vous venez d'être élu deuxième meilleur gardien au monde derrière l'Italien Buffon. Quels sont encore les domaines dans lesquels vous devez progresser pour justement dépasser le gardien Buffon?
Moi je pense que surtout ce que je dois faire c'est de prouver mes performances de cette année parce que c'est toujours difficile de continuer ou de garder les mêmes performances, le même niveau et je pense que c'est ça ce que j'ai besoin de faire.
Est-il possible de faire une comparaison entre le championnat français et le championnat anglais? Où se situent les différences pour un gardien de but? On parle beaucoup de l'engagement physique, mais y a-t-il encore autre chose?
Oui, je pense que la différence, c'est l'engagement physique, parce que je pense que la présence physique est énorme dans le championnat anglais. Après, je pense que la présence des attaquants dans la surface est meilleure dans le championnat anglais, parce qu'on trouve toujours au moins 4 attaquants pour marquer. Et je pense que c'est ça ce qui fait la différence pour un gardien, parce que les challenges et tout ça, les jeux aériens, c'est plus difficile.
Malgré sa nouvelle popularité en Angleterre, Petr Cech reste les pieds bien sur terre, une modestie naturelle qui n'est d'ailleurs pas la moindre de ses qualités. Le champion d'Europe de Espoir 2002 n'oublie pas non plus ses deux saisons passées en France, étape importante dans sa progression depuis son départ du Sparta de Prague à l'été 2002.
Je suis toujours en contact avec mes coéquipiers, avec les entraîneurs, avec entraîneurs gardiens ou les assistants, parce que les adjoints. Et bien sûr, j'ai passé de très très bonnes saisons à Rennes. Ça m'a donné beaucoup d'expérience. Peut-être pour ça, je suis au succès en Angleterre. Et j'oublierai jamais mes deux saisons en France. C'est pour ça que je suis toujours en contact.
Enfin, dernière question, comment faites-vous pour entretenir votre excellent français?
Pour moi, c'est bien, ça fait du bien d'avoir les Français dans mon équipe, parce qu'il y en a six personnes qui parlent français, et c'est pour ça que je peux parler de temps en temps, et j'ai pas beaucoup oublié.
C'est la fin de cette rubrique sportive. Merci de votre attention et restez en notre compagnie.
Un peu de musique quand même. Yarka Gisubelova.
La chanteuse Zuzana Michnova, qui se produit depuis plus de 30 ans avec le groupe folk rock Marcias, s'est inscrite dans la connaissance de plusieurs générations d'amateurs de ce genre de musique. Son nom ne fait pas la une des journaux, ses concerts ne sont pas trop fréquents, mais elle a un groupe d'admirateurs fidèles qui aiment sa voix saine et ferme. Elle devient populaire également parmi des jeunes qui la découvrent grâce aux rééditions de ses albums qui, à l'époque de leur première parution, marquent un tournant dans la musique folk-rock tchèque. Voici sa chanson Léonard, dédiée au chanteur canadien Léonard Cohen, considéré comme porte-parole de la folk-song. Chanteuse, parolière et compositeur, Zuzana Michnova chantait depuis ses 12 ans dans un chœur avant de devenir en 1968 membre du groupe Folksingers, rebaptisé plus tard Marcias. Dans la mythologie grecque, un des satyres qui a trouvé la flûte qu'Athéna avait rejetée. Au fil du temps, la composition du groupe changeait, plusieurs musiciens sont partis, d'autres sont arrivés, sauf Zuzana Michnova. Au début, elle n'était qu'interprète, mais peu à peu, elle se consacrait aussi à la composition. Marcias et Apollon est le titre de la chanson suivante.
Život soupeří, jen jeden.
si la musique de Susanna Michnova est influencée par le folk international de la fin des années 60, ses textes poétiques sont beaucoup plus personnels avec le leitmotiv des relations amoureuses. Un critique a écrit sur elle. Elle est une chanteuse spontanée qui partage ses sentiments avec charme naturel. Ses images sont concrètes et leur expression instinctivement élégante. Je vous laisse en compagnie de Susanna Michnova et sa chanson L'automne. Merci de votre attention et à très bientôt sur Radio Prague.
Zůstávám jak listy, co stromů opadnou. Léto už končí, končí svou dovolenou. A podzim stánky zavírá. Někdo si fotí stromy, jak mění barvu slouku. Jinej zas opodál přechází na červenou, kam se zelená vyprácí. Park má nový zimní kabát.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885